Donc c'est beaucoup plus agréable pour moi, évidemment, maintenant, de rajouter mes propres perplexités aux vôtres. Hop. Je me sens infiniment moins seul devant autant d'intelligences politiques collectives réunies. Donc la discussion peut s'engager. Je vous propose de pas me dérober à l'exercice de la conférence quand même. Surtout que j'en ai chié pour remettre tout ça d'équerre. Et donc je vous propose très rapidement, parce que sans ça je vais parler longtemps, parce que je suis un peu inépuisable sur ce sujet, j'arrête plus, puis en plus je m'énerve au bout d'un moment. Donc je vais essayer de sabrer un peu dans ce que je voulais vous dire, en vous posant un peu les pièces du puzzle, un peu en vrac comme ça, et sans trop les détailler, et en rebondissant sur différentes choses que vous avez dites, puisque du coup, on a déjà un truc ensemble là-dessus. Mon problème, ce qui m'excite, moi, sur les questions culturelles, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'à gauche, on peut repenser une position par rapport à ce truc-là, c'est-à-dire, en gros, c'est quoi être de gauche par rapport à la culture ? Je fais partie des gens, je l'ai dit, qui ont un propos assez radical là-dessus et assez pessimiste. Donc, quels sont les axes de cette critique ? Quels pourraient être les axes de cette critique ? Je dis tout de suite que quand je regarde le programme des partis politiques dits de gauche, pour l'essentiel d'entre eux, ils ne sortent pas de la défense de la liberté de création. Voilà, grosso modo, c'est ça, être de gauche et avoir une idée sur la culture. Je trouve ça totalement catastrophique. Je trouve que ça, c'est un programme de droite. Bon, je vais m'expliquer, évidemment. J'ai un faible espoir du côté de l'extrême gauche, je vais voir. J'attends rien du côté du PS et j'ai l'impression que les communistes sont dans la merde depuis le milieu des années 70 sur cette question. Ils ont pas réussi à bouger là-dessus. Première idée, première pièce du puzzle, je l'emprunte entre autres à un gars qui s'appelle Alain Brossa, qui vient de sortir un livre, c'est un prof de Paris 8. Le livre s'appelle « Le grand dégoût culturel ». Je trouve ce bouquin très intéressant parce qu'il synthétise d'un seul coup, là, il est sorti l'année dernière, il synthétise tout un tas d'idées que moi j'avais en tête et que j'arrivais pas bien à formuler. Voilà. En gros, l'idée qui n'est pas que d'Alain Brossa, mais que Alain Brossa ramasse dans un livre bien foutu l'année dernière, c'est que la culture a remplacé la politique. C'est-à-dire que quand c'est culturel, c'est plus politique. Et que la culture, ça sert à remplacer la politique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la culture, c'est un vaste système de dépolitisation des rapports sociaux. Et que si on est à gauche, si on est un progressiste, c'est une catastrophe. Alors, comme Brossa le développe sur 250 pages avec beaucoup de talent, je vais pas le faire à sa place. Mais grosso modo, ce qu'il explique, c'est que ce qu'on appelle la culture aujourd'hui, c'est un démantèlement du programme des Lumières, à savoir l'inhibition de toute dynamique possible d'émancipation, au nom évidemment de l'émancipation, puisque la difficulté dans laquelle nous sommes plongés à gauche, c'est que la culture se présente comme le lieu de l'émancipation. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, la culture, c'est ce qui va combattre McDonald's, ce qui va nous libérer du capitalisme, ce qui va, etc., ce qui va nous sauver, ce qui va nous émanciper. Alors, la grande perversité, c'est que il est possible, en tout cas, c'est une pièce du puzzle que je pose devant vous, il est possible que ça soit un piège à con. C'est-à-dire qu'en fait, ça soit un vaste système de domination qui se présente sous les allures d'un système d'émancipation, mais qui n'est plus un système d'émancipation. Dans cette idée-là, la culture, c'est un dispositif de neutralisation des énergies politiques, c'est-à-dire, grosso modo, le culturel comme paradigme antipolitique, c'est de mettre en place un faux pluralisme qui fait semblant d'agréger toutes les différences pour qu'il n'y ait plus de conflit entre ces différences. Vous voyez l'astuce ? C'est-à-dire que le politique, ça consiste pas à rassembler, vous avez utilisé le mot je sais pas combien de fois tout à l'heure, la politique, ça consiste à diviser. D'accord ? Si vous n'êtes pas d'accord pour vous diviser, il n'y a plus de politique. Et donc ça, nous avons un premier problème gigantesque aujourd'hui, c'est que pour trouver les adversaires, bonjour. Le patron aujourd'hui est devenu le patron d'une entreprise citoyenne, ok ? Puisqu'il nous fait l'amabilité de nous donner un salaire de merde pour un boulot à chier, ok ? Et donc, ça n'est en... Par exemple, mais il faut demander le micro. Par exemple, non, mais ça me convient tout à fait. On pourrait parler pendant des heures du capitalisme vert, du développement durable, tous ces trucs-là, hein, je veux dire. Donc, effectivement. Et par ailleurs, si vous avez, vous avez tous dû regarder Home, qui est ce petit chef-d'œuvre. Non, mais bon, en gros, vous en avez entendu parler. Donc, vous avez le générique. Moi, c'est quand même mon moment préféré dans le film. Hein, si vous avez toutes les marques, les grandes marques qui tournent dans le ciel puis qui s'assemblent pour former le titre. Donc, vous avez Total, LVMH, enfin, voilà, tous les fumiers, quoi. Je veux dire, et hop. Et donc, voilà. Et donc le capitalisme va sauver le capitalisme. Enfin, vous voyez, le capitalisme va sauver la planète, quoi. Donc, on est dans ce truc qui est que quand vous regardez Home, vous sortez de là logiquement assez culpabilisé. C'est-à-dire, vous arrêtez de vous brosser les dents, c'est clair. Vous allez chier dans de la sueur définitivement. Mais il n'y a absolument aucun responsable. Il n'y a personne dans ce film. Personne. C'est pas Total. C'est pas les. Il n'y a pas d'adversaire. Je veux dire, il y a nous. On est là avec notre mode de vie. C'est vraiment con. Enfin bon, etc. Et donc premier problème.
C'est vrai qu'il y a une grande capacité aussi de récupération des discours dissidents, notamment sur ce sujet-là, la décroissance. Quoi, c'est vraiment typique. La capacité de récupération par le système de tout discours dissident, et ce qui fait qu'à la fin, c'est difficile de tenir un discours dissident finalement.
Oui, le capitalisme se nourrit de sa propre critique. Ça, c'est un truc qu'on a fini par comprendre très très bien. Et donc la question, c'est comment faire aujourd'hui de l'action culturelle qui soit politique, qui soit émancipatrice, qui soit... vous voyez ce que je... Et d'ailleurs, les exemples que vous avez cités au début sont des exemples anciens, des années 70. Vous avez parlé de la fête de l'UMA d'avant, vous avez parlé de la fête du PSU, etc. Oui. Oui, oui. Oui, oui, bah, je peux...
Ouais, tu dis que le capitalisme se nourrit de sa propre critique, mais ça, c'est pas propre au capitalisme. Finalement, c'est propre à toute forme de discours ou de théorie qu'on peut développer. C'est en se confrontant aux autres et en se faisant lyncher ou pas, ou en se faisant critiquer, qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on trouve soit des nouvelles manières d'aborder le truc, ou de le défendre, ou des choses comme ça.
En fait, ça aurait été mieux que vous vous taisiez au début. Non. Moi, je propose qu'on reste comme ça. C'est très, très bien. Justement, ça casse le... Non, c'est parfait. C'est juste que je suis dans la merde à chaque fois, mais...
Ah, mais t'es venu là pour ça aussi.
C'est clair. Je vais essayer de pas trop embrouiller mes pièces du puzzle, mais effectivement, un des problèmes, si tu veux, dans la récupération de la critique du capitalisme, pour ceux qui connaissent le spectacle par cœur, c'est un problème de langage. J'avais pas décidé d'en parler ce soir, mais j'en dis deux secondes quand même. C'est que nous subissons depuis maintenant une trentaine d'années, enfin grosso modo depuis les années 70, mais surtout les années 80, nous subissons une modification dans le langage qui fait qu'on nous enlève tous les mots négatifs qui nous permettaient de désigner négativement le capitalisme et qu'il n'y a plus que des mots positifs, d'accord ? Quand le capitalisme s'appelle développement, on est foutu, d'accord ? Si nous n'osons plus faire de nouveaux références au vocabulaire critique, notamment celui du marxisme, et parler d'exploitation parce qu'on trouve ça complètement ringard d'utiliser ces mots-là, le capitalisme se fend la gueule, puisque nos critiques sont des critiques qui l'encensent en permanence. Donc il y a un premier problème dans notre capacité même à formuler une critique, je veux dire, du truc. L'exemple que je donne dans le spectacle, quand j'ai le temps, parce que maintenant il dure plus de 3 heures, donc c'est l'exemple du bicentenaire de la Révolution française. Je sais pas si vous vous rappelez de ça ou pas, la commémoration du bicentenaire. L'événement politique le plus important de la modernité politique, c'est la Révolution française. Ah, bon. Et alors dans les années 80, les progressistes du monde entier et les intellectuels de gauche dans les pays arabes, etc., attendaient la célébration en France du bicentenaire de la Révolution. tout le monde et tout le monde pensait que Mitterrand allait faire péter le système, c'est-à-dire allait dénoncer toutes les dictatures du monde entier dans une grande exposition universelle, enfin qu'on allait, enfin que la France allait voilà, que la France allait remettre le couvert 200 ans après, quoi. Donc ils ont été un tout petit peu déçus. Puisque en gros, et je donne cet exemple parce que je trouve que c'est une petite illustration pratique facile à comprendre de comment on transforme un objet politique en objet culturel. Le bicentenaire de la Révolution française façon Good, donc en fait on va confier cette commémoration de cet événement politique à un publicitaire qui va en faire un truc hyper 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 consensuel. Alors la seule personne dont on n'a pas parlé une seule fois pendant le bicentenaire, c'est Robespierre, d'accord. Sauf il y a eu un sondage. Ils ont fait un sondage où ils ont demandé aux Français quels sont les 10 Français de toute l'histoire de la France qui sont pour vous le plus représentatifs de l'histoire de la France. Vercingétorix, Torix, Napoléon, etc. Et alors là, ils ont mangé leur chapeau. Parce que le personnage numéro un pour les Français, représentatif de la France, c'est Robespierre. Alors que on fait tout pour entretenir la légende thermidorienne du bourreau sanguinaire, impuissant, pas drôle, chiant, etc. Alors que on n'en parle pas une seule fois dans toutes les commémorations du bicentenaire. D'accord, c'est-à-dire que tout est fait pour que voilà, Robespierre, c'est Staline et Pol Pot, quoi, d'accord. Raté, je veux dire, il y a une espèce d'inconscient politique collectif qui perdure et les gens citent Robespierre. Donc bon. Et donc Jean-Noël Jeannet va décréter que la France n'a plus de leçons à donner au reste de l'humanité. Fin officielle de la période ouverte par la Révolution française. La Révolution française, c'est le moment où la France décrète l'universalisme, vous vous rappelez ? C'est-à-dire décrète qu'elle va aller libérer les peuples opprimés qui en font la demande. Sympa. Oui, même s'ils en font pas la demande. Mais. Et puis c'est ce moment où un révolutionnaire, un conventionnel s'avance en 1797 au milieu de la convention avec tous les députés debout en larmes parce qu'ils portent un bout de fer qui, et la France vient de calculer la mesure universelle, le mètre, qu'elle décide d'offrir à l'humanité, c'est-à-dire, etc. Enfin bref. Donc pour commémorer ça, pour célébrer cet événement-là, le défilé de Good culturel s'appelle les tribus planétaires. C'est-à-dire que vous avez chaque pays qui est sur un char résumé à son signe culturel, le plus cucu et le plus rigolo. Donc les noirs sont tout nus, ils tapent sur des tam-tams, c'est logique, on sait ce que c'est qu'un noir, d'accord, ça met pas un costume, ça fait pas des études. Les anglais sont sous des trompes d'eau, d'autres sous des parapluies parce qu'il pleut tout le temps en Angleterre, etc. Et donc, bref. Et alors ça fait marrer tout le monde, mais enfin je veux dire, voilà le traitement culturel d'un événement politique. Ça donne ce genre de choses-là. Mais c'est hyper rassembleur. Et donc, vous avez, c'est drôle parce que le premier groupe qui a pris la parole a cité, j'ai noté les mots, partage, échange, montrer, tradition, habitude, etc., etc. Effectivement, la culture, enfin, ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire ce système organisé, pris en charge par l'État, avec, etc., hein, première hypothèse, donc, c'est un système non pas de division entre nous, mais de rassemblement. C'est pour qu'on se sente bien au chaud, et qu'on, etc., etc., et qu'on arrête de s'opposer. Et donc, c'est un système qui vise à faire disparaître les divisions, les contradictions. Bon, j'insiste pas, vous voyez en gros l'idée. Deuxième pièce du puzzle de cet axe critique. C'est la réduction, donc ça c'est ce que je raconte dans le spectacle, je raconte comment ça se fait historiquement un peu, c'est la réduction de la culture à l'art. Donc si je vous dis culture aujourd'hui, normalement vous entendez art. Et donc ça, deuxième catastrophe intellectuelle majeure pour tout homme et femme de progrès, ça fait le bonheur de la droite, mais si vous êtes de gauche, ça ne devrait pas vous faire rigoler. Je veux dire, si culture ne veut plus dire que art, alors féminisme ne veut plus dire culture, mouvement social, ça fait plus de la culture, le syndicalisme, c'est plus de la culture, l'action politique, c'est plus de la culture, enfin bref, la culture, c'est plus de la culture, l'économie, c'est plus de la culture, le social, c'est pas de la culture, d'accord ? Et donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai foutu problème qui bouffe complètement la pensée de gauche. D'autant plus que, troisième pièce du puzzle, mais là je marche sur des œufs dans cette maison, d'autant plus que l'art pris en charge par l'État va s'incarner dans sa version la plus idéologiquement libérale, qui est ce qu'on appelle l'art contemporain. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question, et l'équipe de cette maison est une spécialiste. Donc, j'aurai des discussions nocturnes à n'en pas finir avec la directrice et son équipe, parce que moi, j'ai besoin de comprendre des choses. Pour l'instant, les auteurs que je lis, auxquels je me réfère, je parle de Cueco et Gaudibert, je parle de Bourdieu et Hans Hacke, je parle de François de Rivry, enfin bref. Je parle de gens qui nous exposent, qui nous expliquent, grosso modo, ce que j'ai compris en fréquentant leurs œuvres, ce qui a confirmé ce que je ressentais mais n'osais pas dire. Parce qu'évidemment, je me sentais comme un con devant une œuvre d'art contemporain, mais je n'osais pas le dire. Bon. Évidemment, à partir du moment où des auteurs me disent « mais t'as raison », je veux dire, c'est à chier, c'est complètement c'est aberrant ce truc. Enfin, je veux dire, bon, je me sens tout de suite mieux, donc j'adore ces auteurs. Évidemment. Bon. En tout cas, il y a une version de l'art contemporain qui est l'art contemporain de marché, on dit aussi l'art international, etc. Vous voyez tous à peu près, ce qui, par exemple, voilà, Jeff Koons à Versailles, ces trucs-là. L'hypothèse de ces auteurs, c'est que ça n'est plus de l'art. C'est très très improprement qu'on appelle ça de l'art. C'est une rupture complète avec l'art, et c'est un projet idéologique. C'est un projet idéologique qui est le projet du libéralisme, le projet du capitalisme, d'accord, qui consiste précisément à éliminer la figure de l'artiste, c'est-à-dire la figure du travail, la figure de la pratique artistique, pour la remplacer par l'instantanéisation, la transformation en valeur immédiatement d'un acte sur lequel il n'y a aucun travail. Je parle là dans la version extrême des installations, hein, c'est-à-dire trois bouts de machin par terre, ça vaut immédiatement des millions et des millions. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est dans des livres, c'est pour ça que je, voilà, faites comme moi, enfin, si ça vous amuse, c'est de retracer l'histoire de ça. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais comme un imbécile qui ne comprend pas la beauté de trois cailloux posés par terre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà. Et c'est comme ça que fonctionne ça en tant que domination, évidemment. C'est en nous faisant avoir honte de ne pas comprendre, de ne pas être capable d'apprécier cette démarche. Je raconte toujours dans le spectacle, bah, vous avez qu'à revenir le 27. Quand je rentre dans la maison de la culture d'Amiens un jour, et qu'il y a 75 bidons alignés contre un mur, et que c'est une œuvre d'art. Et donc moi je suis tout seul, comme ça, comme dans une église, hein. Il n'y a jamais personne dans ces trucs-là. Et donc je me balade devant les bidons, et puis devant chaque bidon il y a un Polaroid, super mal pris, hein, c'est l'idée, avec un endroit du monde, et vous comprenez que l'œuvre de l'artiste, c'est qu'il y a de l'eau du Nil, il y a de l'eau du Yangtze-Kiang, il y a de l'eau de la Volga, il y a de l'eau de la... etc. Et donc je me dis à ce moment-là, dans le secret de ma conscience, je vais devoir faire un choix. Soit je dis, c'est complètement bidon, c'est nul. Enfin, je veux dire, c'est de l'arnaque. En plus, si ça se trouve, c'est de l'eau d'Amiens. Et puis moi, si on me file le pognon, je veux bien me faire un tour du monde et puis ramener de la flotte. Enfin bref, donc voilà. Et je suis un prolo. Soit je dis, moi, je trouve ça nul. Je trouve qu'il y a une arnaque là. Mais si je le dis, je vais avoir l'air d'un prolo. Vaut mieux que je dise qu'il y a une démarche. Bon. Et à ce moment-là, je décide de faire partie des gens. Et je décide de faire partie des gens qui sont capables d'apprécier cette démarche. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais avoir, moi, tout un tas de problèmes dans les institutions qui m'emploient et qui défendent l'art contemporain, qui essaient de le faire comprendre aux jeunes dans les banlieues. Parce que j'observe systématiquement que ce qui est expliqué, ça n'est jamais le processus de légitimation, c'est toujours de faire avaler la croyance dans cette chose-là. Je veux dire que deux amis à moi d'une institution d'éducation populaire que je ne nommerai pas emmènent des jeunes d'un quartier des Beurs, hein, de préférence, à la Documenta de Kassel, ou je sais plus, à la Biennale de Venise, et puis il y a une œuvre d'art où l'artiste a fait carreler entièrement un pavillon, puis il a pété tout le carrelage à coups de marteau. Bon, et donc l'œuvre, vous marchez sur des gravats. Bon, voilà. Et alors évidemment, les jeunes, immédiatement, disent, ouais, madame, bah, je peux faire pareil, hein. Je veux dire, vous me filez les millions, je vous éclate tous les abribus, si vous voulez, on en fait une œuvre d'art, je veux dire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a raison de dire ça. Moi, je trouve... il est tout à fait sensé à émettre. Ce qui est intéressant, c'est la réponse de l'animateur qui, au nom de l'éducation populaire, a deux solutions. Et pour moi, il ne prend pas la bonne. Soit il lui dit « Oui, tu peux faire ça, mais tu ne seras jamais légitimé pour ça. » C'est-à-dire que, parce que je vais t'expliquer comment fonctionnent les processus de légitimation. C'est-à-dire que le capital ne décidera jamais d'investir sur toi pour se valoriser. D'accord ? Donc je t'explique les 3 M, les médias, le marché, le ministère, comment ça se marche, comment on décide, comment on finit par accepter que quelqu'un, d'accord, pose des gestes comme ça et que ça vale des millions et des millions, et pourquoi toi ça sera jamais ça. Et là, à mon avis, on est dans une démarche d'éducation populaire, puisqu'on va expliquer politiquement ce que c'est que cette démarche, ce que c'est que l'art contemporain. Soit On lui dit, et c'est ce qu'elles lui disent, bah, tu vois, c'est dommage que tu dises ça. Parce que ça prouve que tu n'es pas capable de comprendre la démarche de cet artiste. Auquel cas, le mec fait partie de la France d'en bas et il n'en sortira jamais. Et donc, le deuxième problème que j'ai avec la culture dans sa version extrême de l'art contemporain extrême, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des artistes, d'accord, je suis en train de parler d'une forme très 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 valorisée par les pouvoirs publics, qui vient des États-Unis, comme par hasard, je veux dire, le manifeste de l'Action Painting qui lance le mouvement dès 46, c'est quatre critères, l'art contemporain doit être apolitique, l'art contemporain doit être individualiste, l'art contemporain doit être violent, et l'art contemporain doit être apolitique, individualiste, violent, j'en oublie un. Enfin, quatre critères super sympas de gauche, hein, je veux dire. Apolitique, ça ne doit... Ah oui, et non figuratif. D'accord ? Ça ne doit rien représenter. Ça ne doit parler de rien à personne, apolitique. Ça ne doit pas être collectif, d'accord ? Et ça doit être violent. Je trouve que c'est un superbe programme pour la gauche. Par ailleurs, vous ajoutez à ça que la CIA considère, alors allez sur internet, tapez Institut de la Liberté pour la Culture, ça y est, c'est archi officiel, la CIA considère qu'une de ses plus grandes victoires de désinformation a été le financement massif après la guerre de l'art abstrait en Europe, c'est-à-dire de convaincre des gouvernements avec beaucoup, beaucoup d'argent, que eux-mêmes convainquent leurs artistes de passer à une forme d'art qui ne désigne plus aucun rapport social. D'accord ? À l'époque, il s'agit de faire pendant au bloc communiste, qui lui est engagé dans les formes extrêmes, on va dire, de réalisme socialiste, où là, on est sur des trucs, etc. Et donc, pour montrer que la liberté, c'est la liberté de ne pas faire de politique, de ne rien dire sur rien, de se regarder le nombril, etc., c'est ça le summum de la liberté, la CIA va financer fortement ces trucs-là. Donc moi, une des questions que je pose, et que j'aimerais poser ici, mais sauf qu'il va falloir que je lise beaucoup plus de livres pour tenir tête, c'est où on en est par rapport à ça à gauche, c'est-à-dire où on en est par rapport à cette forme-là d'art officiel, comment les gens sont choisis, d'accord, comment ils sont désignés, comment ça se fabrique, qu'est-ce qu'on en a à foutre au fond, je veux dire, est-ce que on est là pour soutenir ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de travail artistique, pourquoi ça élimine du travail artistique, enfin bref, donc reprendre la question de l'art là où elle est me paraîtrait une ambition de gauche intéressante. Pour aller encore plus vite, troisième problème que va installer la culture en France, c'est une division radicale entre culture et socioculture. Alors moi j'ai eu la chance ou la malchance de le vivre dans une institution socioculturelle. Et donc, c'est franchement pas évident, enfin, de vous faire prendre pour un blaireau en permanence. Donc, il y a à partir des années, enfin, à partir du ministère de la Culture, il y a cette distinction qui va s'opérer entre ce qui est vraiment culturel, c'est-à-dire des vrais professionnels, et ce qui n'atteint pas cette essence très particulière, très mystérieuse, très difficile à comprendre, d'accord, que seuls quelques conseillers artistiques patentés peuvent éventuellement désigner, d'accord, qui fait que ça, c'est artistique. Ou que ça c'est culturel et que ça n'est que socio-culturel. Vous retrouvez là, ça je trouve ça terrible. Je pense qu'il faut se battre activement contre ça. Il faut briser, il faut enfreindre cette séparation. On peut se poser la question ensemble de comment l'enfreindre, comment engager le processus, mais je pense qu'il faut l'enfreindre. Il ne faut plus jamais accepter qu'on nous dise non, ça c'est pas culturel, c'est socio-culturel. Je trouve que ça c'est un des principes les plus forts de la domination, c'est celui-là. Ça plonge des milliers et des milliers de gens dans la honte de ce qu'ils font. Et ça instaure une espèce de caste mystérieuse, etc., de gens qui sont vraiment culturels, les vrais artistes. Vous avez là-dessus un clivage professionnel amateur qui vient se compliquer tout le truc. Moi qui ai connu les années 70, je me rappelle que le grand discours, quand on était dans l'animation socioculturelle, dans ces trucs-là, c'était « c'est pas le résultat final qui compte, c'est le processus ». C'est le grand truc des années 70, c'était si on fait avec des enfants, si on fait de la peinture, peu importe le résultat final, ce qui compte, c'est ce que l'enfant va vivre dans le processus, etc. Dès les années 80, vous avez une inversion complète. Le processus, l'expression, c'est total ringard, ce qui compte, c'est le résultat final. Ce qui prouve qu'il y a une vraie démarche, c'est que le résultat final est de qualité professionnelle. Vous avez donc la professionnalité étant, selon les marxistes, un des critères de la marchandise. Vous avez, à mon avis, une marchandisation du phénomène culturel sous prétexte de professionnalité. Par ailleurs, moi qui ai fréquenté un peu le domaine du théâtre et notamment du théâtre public, grosso modo, je pense, c'est mon avis, je vais me faire lyncher, c'est que dans les années 80, l'État public est mort, est devenu chiant, con et nul. D'accord ? À 99%, allez. Et donc, quand je parle avec trois inspecteurs nationaux du théâtre, trois inspecteurs nationaux, type... au moment du Kir Royal, et qu'on se déboutonne, et qu'ils ont pris trois verres de blanc dans le nez, qu'on commence à discuter un peu, et qu'ils me disent tout ce que je vais voir, ils me disent ça, tout ce que je vais voir au théâtre me fait chier, aujourd'hui. Au théâtre public, hein, le théâtre, les barons, les grands, là. Et donc moi, je leur dis, ben, je comprends pas, vous êtes inspecteur du théâtre, alors vous faites quoi ? Le type me dit, on fait rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Je dis, je sais pas à quoi ça sert d'être inspecteur, alors. Si vous inspectez, vous dites, ben, voilà, vous avez Planchon, par exemple, ils me disent, Planchon, c'est nul ce qu'il fait, c'est nul. Je me suis endormi, Chéreau Coltès, j'ai dormi pendant 4 heures, etc. J'entends bien, mais vous faites quoi ? Le type me dit, on ne peut rien faire. L'État n'a pas apporté un jugement esthétique. L'État ne va pas dire Chéreau, c'est pas bien, ou Planchon, c'est nul. Donc, on renouvelle la subvention à l'infini, et puis voilà, il n'y a pas de. Etc. Et donc, je fais l'hypothèse que dans ce cas-là, on n'est plus dans le domaine de l'esthétique, on est passé dans autre chose. Parce que le domaine de l'esthétique, c'est le domaine du jugement. Voilà, on doit pouvoir dire qu'une pièce du IN est chiante, et comme personnellement, toutes celles que je vois dans le IN me font chier, j'y peux rien. Je veux dire, alors, dans le off, il y a des merdes abominables, hein, dans le off, il y a le pire du pire. Mais. Je veux dire, je constate que je veux dire par là que le clivage amateur-professionnel ne me paraît plus pertinent. Je veux dire, je vois des choses chez des amateurs qui sont bouleversantes alors que je me fais chier. Comme c'est pas imaginable, je veux dire, bon. Alors, comme j'ai une fille qui veut absolument m'emmener voir des trucs de, vous savez, Jean-Claude, il dit ça y est, il est parti dans son discours poujadiste. Et donc, je m'excuse, mais je vais, voilà. Ma fille m'a traîné pour aller voir le dernier truc de Scaretti, Philoctète à l'Odéon. Les gens applaudissaient. Bon, voilà, je suis complètement devenu une espèce de messe bourgeoise, chiante. Je trouve ça aucun intérêt. Scaretti, j'ai discuté avec lui il y a 10 ans. Il m'expliquait que c'était exactement ça qu'il ne ferait jamais. D'accord ? Bon, il m'expliquait pourquoi, il m'expliquait comment. Voilà, c'est ça qu'il fait. Je suis allé voir un Brecht, par exemple. Ma fille m'emmène voir un Brecht mis en scène par Martinelli à Chaillot. Donc, le grand truc, quoi. Je veux dire, le brave soldat Schweig. C'est une pièce, vous savez, vous connaissez le brave soldat Schweig. C'est ça, un neuneux qui dit du mal des nazis. Mais comme il est neuneux, on peut pas trop l'emmerder. Donc, c'est hyper subversif. Vous allez voir ça dans n'importe quel MJC avec des amateurs. Vous sortez de là, vous avez rigolé, vous avez pleuré. Là, vous allez le voir à Chaillot. Alors le petit bar dans lequel se passe l'action, il fait 60 mètres d'ouverture de plateau. Les lustres viennent tous de chez Roche et Beaubois. Les mecs ont des super costumes abricots, etc. Et puis surtout, il se passe rien. C'est-à-dire que ce que l'œil reçoit, c'est une démonstration de puissance permanente. Ce n'est plus le texte de Brecht, c'est autre chose. Donc voilà, pour moi, ça c'est de la culture. Et donc l'opposition culture, socioculture, professionnelle, amateur, je trouve qu'il serait temps qu'on la questionne. Je pourrais vous en... Bon, je vais peut-être arrêter avec tout ça parce que j'ai trop de critères. Et donc la question intéressante, c'est comment s'en sortir ? Alors, comment refaire culture ? Comment est-ce qu'on pourrait à gauche ? C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est quel pourrait être un programme de gauche ? Qui, à gauche, va décider de commencer à ramener sa fraise sur ces questions-là et à proposer autre chose ? Est-ce que c'est le PC ? Est-ce que c'est le NPA ? Est-ce que c'est ici, la Maison Pop ? Est-ce que c'est les Verts, hein, puisqu'ils accusent de ne pas être assez populaires, donc ils ont sûrement une idée sur la question. Donc il fallait les interroger, leur demander. En tout cas, comment refaire culture ? Pour moi, je pense qu'il faut identifier et combattre toutes ces dominations. Il faut repenser à un art qui soit ouvertement politique, parce que finalement les émotions que vous avez citées, c'était presque tous des objets culturels qui étaient ouvertement politiques. Vous avez cité un film qui parlait de Welcome, sur les Afghans, vous avez parlé, etc. Je pense qu'il faut repenser une utilisation politique de l'art. Il faut en finir avec le complexe de Jdanov. Il faut qu'on arrête de se dire que si c'est politique, si c'est instrumenté, c'est plus de l'art, ça va pas du tout, c'est du socio-cul, c'est de l'agit-prop, etc. Je pense qu'il faut repenser complètement des formes d'intervention culturelle ou artistique qui parlent expressément de choses réelles, à des gens réels, sur des sujets réels. D'accord ? Et qu'il va falloir que quelqu'un arrête d'avoir honte de ça un jour. Je veux dire... J'essaye d'abréger, je saute parce que je voudrais qu'on discute. Une des façons de refaire culture, c'est-à-dire pour moi de faire de l'éducation populaire, c'est de s'intéresser à ce que les gens vivent et aux formes de domination qu'ils vivent et de fabriquer de la culture avec ça. C'est donc de s'intéresser à des choses réelles. Par exemple, je donne des exemples. Alors, c'est là-dedans que s'est engagée la Maison Populaire sur la question du travail. Je veux dire, il est absolument urgentissime de réinterroger publiquement dans des procédures culturelles, artistiques, ce que vous voulez, la question du travail aujourd'hui, la question de l'organisation du travail. Les mecs en sont à sauter par la fenêtre, ok? Et donc, ça veut dire qu'il faut se battre contre la démarche qualité, par exemple. Pour moi, je voudrais qu'on réfléchisse à la façon dont, dans le champ de la culture, les acteurs culturels, les gens de théâtre, de vidéo, de ce que vous voulez, peuvent armer le mouvement social pour se défendre contre le management, pour se défendre contre la nouvelle organisation du travail qui a été mise en place dans les années 80, pour se défendre contre les directeurs de ressources humaines, contre toutes ces merdes, d'accord ? Voilà un champ concret, précis, politique, d'engagement culturel. Alors, vous voyez tout de suite le problème. Je me dis, mais attendez, vous n'allez quand même pas faire une pièce de théâtre sur la démarche qualité, c'est du théâtre forum, je sais pas quoi, enfin bref, on s'en fout, nous on va monter Philoctète de Sophocle dans la traduction de... Bon, eh ben non, je pense qu'il faut, il faut se réattaquer à des sujets précis, concrets, il faut se réattaquer à l'école. L'école est un système qui fabrique de l'inégalité d'une façon démentielle. Il faut s'attacher aux gens, non pas à du public, parce que ça veut rien dire public, mais à des gens situés réellement. Et donc, et j'en arrêterai là, d'abord parce que j'ai envie de boire. Il y a un sociologue qui s'appelle Pierre Roche, au CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, qui a mis ça en formule. Il appelle ça parole, savoir, pouvoir. En gros, ce qu'il dit, c'est il faut redonner la parole aux gens, c'est-à-dire qu'il faut ramasser du témoignage. Il faut permettre aux gens de parler et de raconter ce qu'ils vivent là où ils le vivent. En tant qu'usagers d'un service public, d'accord, les gens de la poste, les profs. Qu'est-ce que les profs vivent en tant que profs dans cette école de dingue aujourd'hui qui prétend faire de l'égalité et qui fabrique de la sélection à tour de bras? Comment on fait pour être prof, c'est-à-dire pour fabriquer de l'égalité avec le contraire de l'égalité? Comment on devient pas fou quand on est prof? Faire parler les élèves, faire parler les parents, faire parler les élus, bref, c'est-à-dire recueillir de l'histoire, du témoignage, d'accord, dans différents secteurs de la vie comme ça, et ensuite transformer ça en analyse politique avec les gens, c'est-à-dire fabriquer de la culture, fabriquer de l'analyse politique, pour évidemment modifier le système, pour combattre le système, pour mettre fin au dispositif d'insertion, c'est n'importe quoi, pour mettre, vous voyez, c'est-à-dire s'attaquer à des choses réelles. Et je fais l'hypothèse, enfin c'est une des hypothèses que je vous soumets, que ça serait un très très beau programme pour la gauche, c'est-à-dire de pas seulement faire de la diffusion culturelle de choses compliquées, abscons, totalement abstraites, qui n'ont pas de rapport avec la vie mais qui sont magnifiques, et se remettre à fabriquer de la culture avec ce que les gens vivent là où ils sont, là où ils le vivent. Moi j'appellerais ça une université populaire. Le terme est à la mode, ça tombe très bien. Je veux dire, maintenant, il y en a dans tous les coins. Tout le monde veut faire une université populaire. Il y a du meilleur et du pire là-dedans, mais il y a quand même du meilleur. Il y a des choses tout à fait bien. Et je trouve qu'une maison comme celle-ci, par exemple, pour prendre un équipement comme celui-là, qui a des moyens, qui a des locaux, qui a du personnel, qui a des compétences, pourrait tout à fait être un lieu où des gens auraient la possibilité de venir raconter concrètement ce qu'ils vivent au travail. Et puis qu'on fasse quelque chose avec ça. Collectivement, me demandez pas quoi, un film, une expo, une pièce de théâtre, des bouquins, enfin bref, de l'action collective, une manif, et que ces lieux n'existent pas et qu'il va falloir faire vite maintenant, quoi, parce que sans ça, ça va être trop tard. Et voilà. Et sortir de la méthodologie de projet, mais ça j'en parlerai plus tard. Bon, voilà deux, trois idées que je voulais vous soumettre sur cette question du rapport à la culture aujourd'hui à gauche. Et donc vous voyez que j'ai eu raison de ne pas commencer comme ça.
Prévoir de sortir de la méthodologie de projet, ça rend pas mon problème.
Bah, Tu veux que je dise un mot là-dessus ? Non, mais vous savez ça, que toute notre façon d'être ensemble maintenant est complètement encadrée dans des logiques de projet. Ce qui n'était pas le cas aller jusqu'à avant les années 80. Donc c'est non seulement notre façon de travailler, c'est notre façon d'apprendre à l'école, hein, pédagogie par objectif, c'est notre façon de demander de l'argent, d'avoir des relations, etc. etc. Et donc y a, voilà, là-dessus aussi, il y a suffisamment de bouquins maintenant, hein, sur ces questions-là. Je veux dire, en gros, la méthodologie de projet, et moi j'en ai bouffé jusqu'à plus soif, hein, je sais pas, vous avez tous dû passer comme moi par des stages où vous essayez de comprendre la différence entre le but et les objectifs. En gros, on s'est fait prendre dans une espèce d'hyper-rationalisation de l'action qui a totalement tué toute notre capacité politique en tuant notre désir. J'ai un exemple très simple de ça. Ça permet de comprendre ce que j'appelle sortir de la méthodologie de projet. Une MJC nous demande un jour, une grosse MJC sur un quartier nous appelle en disant « Ouais, on n'a plus de contact avec les gens, en fait, les animateurs, ils connaissent plus personne sur le quartier, ils font du projet toute la journée sur Internet, et puis moi, en tant que directeur, je passe 80% de mon temps à monter des projets, et puis voilà, on fait du yoga, mais en fait, on a perdu notre philosophie politique de départ, faudrait nous aider. » Donc on fait un séminaire avec eux, on arrive à choper des habitants, des gens d'une association tunisienne, machin, des trucs, etc. Et puis les gens commencent à se lâcher, à s'exciter, et on les fait délirer sur qu'est-ce que vous aimeriez faire hors contrainte, si vous aviez les moyens de lancer un truc ici, mais on n'a rien à foutre de si c'est possible ou pas. Et donc ils se mettent à partir sur des délires, ouais, un bar, mais pas un bar associatif, un vrai bar en plein dans le truc, dans la MJC, ouais. Et puis ouais, des trucs chez les gens, on va aller chez les Tunisiens, on va faire ça, puis là on va faire un voyage avec 1000 personnes, enfin bref, ils partent sur des trucs. Et puis, à un moment, le directeur arrête le truc en disant stop, attendez, moi je veux bien qu'on parte là-dessus, mais alors on va mettre en place des commissions, on va définir le projet, on va, etc., etc. Et donc ils partaient sur des trucs mais carrément géniaux, quoi. C'est-à-dire ils secouaient enfin le côté on fait plus que du yoga, enfin bref. Et donc ils se mettaient enfin en mouvement sur des trucs de ouais qui étaient bien excitants, quoi. Ils étaient complètement barge mais excitants, enfin, mais et puis tout à fait réalisable par ailleurs, évidemment. Et donc le mec dit attends, tac, pof pof pof. Donc on lui dit arrête, tu sais, moi je lui fais des grands clins d'œil, je lui dis arrête. Il me dit non, moi je suis responsable, moi je veux pas que les gens ils aillent au carton, moi je veux pas qu'ils aillent à l'échec, donc moi mon rôle c'est de veiller à ce que le truc, tout ce qu'ils mettent en place ça marche et qu'il n'y ait pas d'échec. Et là tu lui dis mais t'es en train de péter le truc, je veux dire t'es en train de, ça va devenir tellement cadré que ça sera tellement chiant qu'on aura même plus envie de le faire ton truc, je veux dire. Oui, mais s'ils se plantent, mais je dis, mais heureusement, je dis, parce que c'est là que ça va devenir intéressant. Évidemment qu'il faut qu'ils partent en sachant pas où ils vont et en n'ayant pas fait les 15 étapes jusqu'à l'évaluation finale. Évidemment qu'il faut qu'ils aillent au pif, parce que c'est là que c'est instituant. Et qu'on le savait dans les années 70, mais qu'on l'a oublié dans les années 80. Je veux dire, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que les gens partent sur un désir, en voyant vaguement où ils vont, mais en changeant 15 fois d'avis, d'accord, en se plantant complètement et en arrêtant le truc, ou en le faisant partir sur autre chose. Et ça, la méthodologie de projet l'a tué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec, il va monter son plan de barre, tatata, avec les évaluations intermédiaires, le truc, et à la fin, il sait exactement la gueule qu'aura le truc. Il le sait tellement que c'est même plus la peine de le faire. C'est franchement chiant. Enfin, on n'a qu'à prendre la thune puis dire qu'on l'a fait. Enfin, tu vois, je veux dire. Et donc, voilà. Donc, le problème de la méthodologie de projet, c'est qu'elle s'est présentée comme une amélioration de nos façons de faire et une clarification. Et donc, elle était relativement désirable. Enfin, on pouvait comprendre. Vous voyez. A priori, c'est pas bête de dire aux gens, bah, tu devrais quand même réfléchir un peu, mettre des jalons. Enfin, oui, ça, d'accord. Enfin, voilà, si tu pars en vacances, bon, mais en même temps, imaginez un départ en vacances où vous auriez planifié toutes les étapes pendant le mois. Tous les soirs, vous savez où vous allez. Si vous partez plus, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire. Ce qui est marrant en vacances, c'est de se planter, de pas savoir où on va, c'est de se gourer de route, enfin, c'est de se retrouver dans les Vosges en voulant aller à Montpellier. Enfin, bref, voilà, quoi. Parce que là, il y a de la vie, quoi. Enfin bref, et donc je pense que tout ça c'est de la culture pour moi, mais donc secouer ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais ouais, je trouve que c'est un beau programme pour la gauche. Enfin, moi, la gauche, hein, vous avez, je la situe. Enfin, faut commencer à balancer des trucs sur les TGV hein, pour être à gauche. D'accord. Donc, Donc oui.
Est-ce que vous agissez à un niveau militant ?
Qu'est-ce que tu appelles les acteurs de la culture ?
Autres comédiens ou les directeurs de théâtre que vous côtoyez ou...
Je n'en fréquente aucun. Ça fait... J'ai présenté cette conférence gesticulée environ 190 fois. Il doit y avoir quasiment pas un seul théâtre qui m'a pris. Si, il y a celui d'Ivry, enfin, je veux peut-être en trouver deux, trois. Aucune institution culturelle, aucun centre culturel. Et donc, je trouve ça très intéressant, parce que eux se trompent pas. Je veux dire, ils pigent tout de suite que c'est pas de la culture. Je veux dire, un mec me fait le directeur du groupe des vins. Le groupe des vins, c'est 20 théâtres en régie, dans des mairies PC, en Ile-de-France, des gens sympas comme tout. Le type convoque le groupe, il me joue absolument qu'il voit ton truc. Bon. J'arrive, moi je suis caché avec mon poireau derrière les rideaux, je suis mort de trouille, je suis allé faire pipi 13 fois, enfin bref. Et puis le mec me présente à 20 programmes, 20 directeurs de salle, des mecs dont le métier c'est d'acheter des spectacles. Et il dit voilà, je voudrais vous présenter ce que j'ai vu personnellement de plus fort à Avignon cet été, tu vois. Tu retournes faire pipi tout de suite, tu vois, tu te dis le salaud. Et donc bref, donc je fais mon truc. Et puis, après, bon, on boit le pot, on bouffe, ils viennent tous me voir un par un, ils viennent tous me dire « J'ai super aimé ton truc, je vais réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble. » Moi, j'ose pas, mais je pense très fort, t'as qu'à l'acheter. Enfin, Puis tu le mets dans ta plaquette à côté des autres, quoi, tu vois, je sais pas. Et donc, pour eux, c'est absolument impossible. C'est-à-dire que cet objet-là, là, que je vais présenter le 27, le 22, cet objet-là ne peut pas rentrer dans une programmation culturelle. Pour moi, ce que je fais, c'est de la culture. Enfin, je parle de Malraux, je parle de... Enfin, tu vois, je dis, voilà. Il n'y a pas un seul foutu putain de centre culturel ni de théâtre qui me l'a acheté. Par contre, alors là, les socio-cul à fond, les foyers ruraux au fin fond de la Moselle, dans un truc pourri où tu te gèles les noix, tu vois... Avec des gens qui veulent faire la révolution, super. Enfin, c'est vraiment des réseaux, c'est extraordinaire. Mais alors, les culturels, d'abord les culturels, en général, c'est ceux qui sortent de la salle. Les DAC, les directeurs d'action culturelle. Ceux-là, ils supportent pas bien. Bon. Mais bon, voilà, je les comprends. Enfin, je veux dire, ils sont, voilà, c'est leur métier, c'est leur identité. Puis moi, je démolis ça à tour de bras. Donc, bon. En plus, ils peuvent pas répondre. C'est pour ça que je les fais, je trouve ça très bien. J'ai compris un truc, c'est que dans les colloques, faut discuter avec la salle. Alors que quand tu fais un spectacle, ils se taisent, quoi. Ils sont dans le noir, il y a que toi qui parles. Ça, c'est génial. Tu vois. Donc, en fait, j'ai peu de contact avec les gens de la culture.
D'après ce que je sais, tu vas quand même faire un truc à Rennes en janvier auprès des musiciens qui sont en formation. Là.
Ça y est, c'est fait, c'était la semaine dernière à Saint-Brieuc.
Fait, ouais. J'avais une copine qui était dedans et me disait à la base, on leur avait présenté le truc en disant que c'était bien d'avoir quelque chose d'original.
Ouais. Oui, tout à fait. Mais si tu veux, on arrive dans une formation de prof de musique. Alors, tu vois, moi j'y vais en disant comment on fait de la politique avec le violoncelle. Vraiment, moi je suis parti aller là-bas, je laissais des traces de frein sur la moquette. J'ai des profs de musique, voilà, ils veulent être profs de musique, quoi. Et donc, ça a été génial. Ils comprennent tout. Tiens, ce que vous avez dit là sur les inégalités, ils savent exactement comment ça se passe la répartition par instrument. Hein. C'est le bourgeoisie, violoncelle, ensuite le piano, c'est déjà moins bourgeois, puis ça continue, puis à la fin t'as le djembé, tu vois. Et donc. Je veux dire, et ils vont enseigner ça, ils le savent, ça leur pose pas plus de problèmes que ça. Enfin, ils trouvent ça embêtant. Mais si tu veux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les classes populaires, elles viennent pas. Je veux bien enseigner le violoncelle à un pauvre d'un quartier. Mais il se trouve qu'il vient pas, j'y peux rien, moi. Alors, ils savent tous que c'est trop cher, c'est 600 euros par mois, enfin, par an. Ils savent tous que c'est un enseignement qui est un enseignement de maître à élève avec un élève. Il y a quasiment pas de cours collectif. Ils savent tous qu'il y a une sélection terrible dans les conservatoires. Enfin, finalement, en deux jours de discussion, on s'aperçoit qu'ils ont une conscience politique du milieu de leur métier qui est tout à fait au point. C'est juste qu'ils n'avaient jamais décidé de faire quelque chose avec cette conscience politique-là. C'est-à-dire, voilà, en gros, c'est, oui, effectivement, c'est un marqueur social, le violoncelle, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça quand on est prof de violoncelle, tu vois ? C'est-à-dire que... Alors là, évidemment, pendant deux jours, on leur a dit, est-ce que vous pourriez imaginer de faire des trucs, je sais pas quoi, dans le quartier, avec les travailleurs sociaux, ou pas ? Alors là, enfin...
Et finalement, le bilan, enfin, ce sera intéressant. Enfin, qu'est-ce qu'ils en ont retiré, justement, politiquement ? Est-ce qu'il y en a quelque chose qui est sorti ou pas du tout ?
Je ne sais pas, parce qu'un des soucis qu'on a, c'est que ces interventions sont trop ponctuelles. Tu vois, quand tu vas speeder des gens pendant deux ans, pendant deux jours, comme ça, tu sors de là, tu as l'impression qu'ils vont tous faire la révolution, quoi. Voilà, ils ont fait du gauchisme pendant deux jours, ils se sont fait vachement plaisir. Et ensuite, tu ne les revois plus. On te fait pas revenir, on travaille pas sur la durée, tu vois. Les seuls trucs sur lesquels on a l'impression de faire bouger un peu, c'est quand une mairie nous fait faire un diagnostic jeunesse, par exemple, pour mettre en place une politique jeunesse et qu'ils nous payent pendant 6 mois. Alors là, on commence à se marrer. On met en place des trucs avec les habitants. Alors ils disent non, mais faut pas faire ça parce qu'ils vont nous demander des trucs. Alors on leur dit bah ouais, c'est l'idée en fait. Ils disent oui, mais on va être obligé de refuser. Alors on dit bah non, pourquoi? Tu vois. Et donc là, on commence à faire des. Enfin voilà, on commence à se marrer, quoi. Et parce que la question du temps est une question politique. Parce que des interventions ponctuelles, comme moi j'en fais à droite à gauche, ça fait plaisir, ça secoue, ça remue. Mais c'est la question, c'est le temps qui est politique, c'est de passer du temps. C'est pour ça que la soirée débat, c'est absolument insuffisant. Imaginez qu'un groupe comme celui-là se revoit régulièrement pendant 2 ans, 3 ans, à raison d'une fois par mois, d'accord, qu'il y ait des sous-groupes qui se mettent en place, je veux dire. Mais donc, une des choses dont il faut s'émanciper, c'est le temps. C'est qu'on n'a pas le temps. Alors là, ça, c'est vraiment un des trucs, là, vous demandez à n'importe qui, vous dites, voilà, on va faire un séminaire de 3 jours. Oh, t'es malade, nous, on peut venir 2 heures.
Oui, merci. Oui, monsieur, je suis étonné que tu sois surpris de qui t'invite pas, enfin, ou faussement surpris, qui t'invite pas ces directeurs culturels qui n'achètent pas tes spectacles. Parce que ce que tu disais tout à l'heure sur le rapport à l'amateur professionnel, la manière dont c'est présenté, et surtout sur la distinction que tu fais socio-culturelle ou culturelle. Alors, moi, je vois pas du tout les critères qu'il y a. Le seul que je vois en lien avec ce que tu évoques, c'est vraiment un critère de classe. C'est le fait qu'il y a deux classes, au moins. Enfin, il y a vraiment deux classes dans le monde du spectacle, de la culture et tout ça. Que ces gens-là considèrent qu'ils font partie de la classe dominante. Je pense qu'ils ont assez raison de le penser. Et que le reste n'est pas de leur classe. Et je pense que ce que tu dis et ta démarche, effectivement, ça fait pas partie de leur classe. Et c'est peut-être bien. Enfin, heureusement qu'ils t'achètent pas.
Mais c'est ce que je me... Si tu... J'ai compris un truc. Un jour, il y a Nicolas Lambert. Vous voyez qui c'est? C'est celui qui fait un spectacle qui s'appelle Elf, la pompe à fric. Qui est un truc génial. En fait, il refait tout le procès Elf. Et alors, Nicolas, on se croise sans arrêt parce que y a pas 50 spectacles gauchos, si tu veux, qui circulent sur le marché. Donc, on se retrouve dans des machins. Bon, tiens, ah oui, t'étais là hier, oui. Et donc, il me dit, écoute, c'est dommage, ma tourneuse pourrait te faire tourner en France. Alors, il sait pas que j'ai pas envie de devenir interminable du spectacle, mais que je veux rester intellectuel de gauche pourri. Mais il me dit, elle pourrait te faire tourner. Lui, il a présenté 240 fois l'année dernière son truc dans des Quartz, National, machin. Et donc, elle dit, elle pourrait te faire tourner, mais elle veut pas parce que c'est pas assez théâtral. Mais si tu veux, te vexe pas. Si t'acceptes que je porte un regard sur ton travail, je veux bien t'aider à le rendre plus théâtral. Et donc, je lui dis, mais Nicolas, t'as rien compris. Je lui dis, je sais faire ça. Je veux dire, c'est ce que je faisais avant, il y a très longtemps, d'accord, quand je me prenais pour le plus grand metteur en scène de tous les temps, quand, d'accord. Je veux dire, ça, je sais mettre des lumières, je sais faire pleurer une salle entière avec la musique qui va bien, je sais, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je mette un fauteuil en cuir pour montrer Mademoiselle Fort, d'accord, et puis que des grandes diapositives d'Auschwitz pendant que je parle avec des corps de juifs, tu vois, béné au bulldozer, enfin, tu vois, un truc de scène nationale, quoi, tu vois. Et donc, je dis, je sais faire ça, il y a absolument aucun souci. Mais je dis, si je fais ça, ça devient un truc culturel. C'est-à-dire que ça perd toute sa dangerosité. Je peux balancer des trucs, les images les plus violentes possibles. Je peux montrer des cadavres de juifs pelletés au bulldozer. ça sera moins dangereux que ce que je fais avec mon poireau. Parce que ça devient culturel, c'est-à-dire qu'on est dans une convention, on dit, ah ok, c'est bon, c'est du théâtre. Pourquoi les gens ils flippent tous quand je commence mon truc? Je commence à dire, ouais, la culture, j'y crois plus, machin, puis en plus ce soir c'est pas du théâtre, puis je sais pas, c'est peut-être même pas du conte. Puis t'as toute la salle qui se met à flipper en disant, c'est quoi ce connard d'extrême droite? Où il nous emmène, où il va, ça commence quand, puis en plus je fais bien chier, tu vois, je dis ouais, ça a pas encore commencé, enfin, et donc et je me suis rendu compte d'un truc, c'est ce côté un peu trash, tu vois, un peu crassou, quoi, peut-être qui fait que ça reste un tout petit peu politique, quoi, c'est-à-dire que quand ça sera super bordé esthétiquement, et eh ben ça sera le brave soldat Schweg à Chaillot, tu vois, avec 60 mètres d'ouverture, et ça sera pas dangereux. Et donc je comprends pourquoi ils me font pas venir. Mais ils sont prêts à me faire venir. Ils veulent juste que je théâtralise le truc. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'un mec tout seul, ça existe. Un mec tout seul, à One Man Show, ça existe. Un standing up, machin. Bah, si je mets des décors, puis si je fais des déplacements dans l'espace, ils veulent bien le prendre. C'est fou, quoi. Bon, on va pas parler de moi toute la soirée. Donc... vous comprenez le danger de ce que je raconte, c'est qu'on est à la limite effectivement du poujadisme et du discours d'extrême droite, puisque l'extrême droite est contre la culture, la droite, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc la question difficile que j'aimerais travailler avec des gens, c'est comment est-ce qu'on peut construire une critique de gauche de la culture, comment est-ce qu'on peut être de gauche et ne pas vouloir ce que Lang a fait dans la suite de Malraux, mais vouloir autre chose et ne pas pour autant être un salaud de droite, quoi, enfin. Je vous sens perplexe.
Je pense pas que je vais pouvoir répondre comme ça à la question parce que je vais me sentir bête sinon. Mais c'est dans ce que vous, tu, je sais plus, disais tout à l'heure sur tous les mots qu'on met en opposition. Voilà, amateur, professionnel, socioculturel, culturel, enfin il y en a une liste pas possible et il y a comme ça une opposition à laquelle je suis en train de me confronter aujourd'hui. Donc je suis une cultureuse formée à la fac, voilà, et tout ça me dégoûte de plus en plus, donc j'essaie de m'en extraire, en même temps je peux pas complètement, et j'essaie de me dire je vais aller travailler auprès des personnes, aussi dans leur quotidien, c'est ce qui m'intéresse là. C'est-à-dire sur leur lieu de travail. Et quand je dis ça à mes anciens collègues cultureux, quand je leur dis je vais aller faire de l'émotion politique, de l'ordre du culturel en entreprise, on me regarde avec des yeux pas possibles. Je suis une pervertie je vais dans la gueule du loup, je vais y perdre mon âme. Alors déjà, je sais pas encore vraiment comment je vais faire. Je suis en train de chercher, mais
non. Puis tu vas dégrader de l'art, si tu veux. C'est ça le problème. Ouais. C'est que tu vas mettre l'art au service du social. Et ça, c'est vraiment pas bien, quoi. Je veux dire, des danseurs contemporains comme François Véret, c'est Véret. Il s'est cramé en allant dans les quartiers. Il s'est cramé. La profession l'a considéré comme ouais, d'accord, ok, c'est du social qui fait, voilà, quoi. Tu vois. Et donc cette séparation, elle est violente, quoi. Et combien de temps on va la subir encore? Parce que je suis pas en train de dire qu'à gauche on est tous des salauds. Je pense que c'est avec toutes les meilleures intentions du monde, la plus grande générosité du monde, qu'on a embrayé sur le discours de il faut engager des vrais professionnels, il faut qu'il y ait une vraie démarche artistique. Je comprends ce discours, je l'ai porté pendant des années. Je fais l'hypothèse qu'on s'est trompé, enfin qu'il est temps de repenser ce discours et de se demander si on avait bien raison d'aller dans ce sens-là, quoi. Voilà, c'est tout. Bon.
En tout cas, dans toutes ces oppositions-là, enfin, de ce que je viens de dire, s'il y en a qui ont des idées, moi ça m'intéresse à fond, mais justement, je crois que c'est les échanges et que vraiment la parole, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est compliqué. On peut même plus en parler. Faut qu'on se cache, faut trouver les bons mots conventionnels pour pas choquer. J'arrive plus à utiliser le mot de projet, mais je suis obligée de l'utiliser. C'est...
Non, mais c'est pour ça qu'il y a une domination. C'est pour ça qu'il y a une domination. C'est ce que Pierre Rimbert, qui est un collaborateur de Bourdieu, Bourdieu parlait de l'imprécation culturelle, c'est-à-dire c'est ce truc qui fait qu'on se sent nul, quoi, tu vois, par rapport à la culture avec un grand cul. Donc il faut arriver à se sortir de ça. Alors, par ailleurs, on sait très bien que un des gros problèmes de l'action culturelle, c'est qu'elle s'est à peu près complètement cantonnée dans la diffusion, donc dans une stratégie d'offre. Et donc, évidemment que ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, moi, je suis allé dans une MJC à Besançon une fois. C'était il y a une dizaine d'années. Cette MJC se désaffiliait de la fédération parce qu'elle estimait que le concept d'éducation populaire ne l'intéressait pas. Elle en avait marre de payer sa cotisation. Enfin bon, peu importe. Et donc, on va participer à un débat avec eux sur. Et puis. Palante, c'est le quartier historique des luttes, de l'IP, c'est l'université populaire de... Enfin bref, Palante, c'est... Et cette MJC, elle est posée au milieu des tours, d'accord ? Et il y a 49 nationalités sur le quartier. Et cette MJC, elle a 900 adhérents, il n'y a pas un seul étranger, il n'y a que des Français d'origine française qui sont dans les adhérents. Et pourtant, il n'est pas écrit sur la porte... interdit aux Marocains, aux Portugais, vous comprenez ? Je veux dire, cette MJC n'est pas raciste. Je veux dire, si vous leur posez la question, ce sont des gens qui sont sincèrement antiracistes. C'est juste que les gens viennent pas. D'accord ? Et ce qui est sidérant, c'est qu'ils vivent ça en étant bien embêtés. Enfin bon, alors ils ont 900 classes moyennes des centres-villes. Et puis quand vous regardez leur plaquette d'activité, effectivement, c'est pour ça que c'était intéressant l'exemple du cinéma qui propose un film en afghan. Quand vous regardez la plaquette d'activité, bah, par exemple, vous avez des cours de claquettes, des trucs, bon. Et bon, il se trouve que ça intéresse pas les maliennes. Enfin bon, voilà, j'y peux rien, moi. Elles n'ont même pas envie de faire des claquettes, bon. Et donc, la question de l'offre d'activité, c'est une question qui est terrible, parce que une population en chasse une autre. C'est-à-dire, si vous vous mettez à faire des trucs de maliens, c'est les claquettes qui viennent plus, etc. Et donc, fonctionner par offre d'activité et constater que le public populaire ne vient pas, c'est le lot de... Allez, 95% des équipements. Et donc, il faut absolument penser des stratégies pour joindre et pour toucher les catégories populaires, parce qu'il suffit pas de faire une offre et de la démocratiser pour qu'elle vienne. On le sait bien, c'est archi connu. Et je parle même pas des pauvres et des maliens. Je veux dire, nous ici, on est un paquet à ne pas aller au théâtre public subventionné parce que c'est cher et que ça nous fait chier et que, etc., etc. Donc. Et donc je trouve super, si tu veux, en fait la critique de la mairie qui change de pouvoir et qui se met à vous dire que vous n'êtes pas assez populaire, parce que c'est un moment magique pour retravailler ça et pour se poser des questions qui sont des questions cruelles, des questions difficiles et qui sont ouais, je trouve que ça va être chouette. Enfin, si on arrive à faire ça, ça sera le pied.
Moi je voulais simplement qu'on parle du rapport au salariat et du rapport à l'argent. Parce que c'est super. Moi, je pense qu'ici, par exemple, il y a un maximum de gens qui sont des salariés de cette profession-là. Pourquoi on fait la place des autres ? Pourquoi on ne laisse pas simplement des structures, des moyens pour que les gens fassent eux-mêmes ? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Tant qu'il y aura toujours des salariés et des gens qui seront là pour décider ce que... Décider parce qu'ils le font de fait. Quand tu dis qu'ils organisent des claquettes, bah, ils font de fait une décision pour les gens. Je vois pas pourquoi ça marcherait. Automatiquement, ça devient du commerce après. Donc, je comprends pas pourquoi ce genre de structure puisse exister. Je pense que on doit peut-être apprendre aux gens à se prendre un peu plus en charge eux-mêmes. Mais il faut savoir qu'avec des gens qui sont salariés pour apprendre aux autres à se prendre en charge, il y aura automatiquement un problème. Parce que quand les gens se seront pris en charge, on n'aura pas besoin de salariés.
Des moments ou des semaines où des troupes amateurs ou des jeunes individuellement pourraient venir commencer à créer des choses pour pouvoir dire ce qu'ils veulent exprimer. Bah, c'est peut-être compliqué, mais je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut repenser, parce que le problème c'est que c'est toujours les mêmes qui sont programmés et c'est un peu pénible, quoi.
Moi, par rapport aux activités séparées, enfin, c'est pas un contre-exemple, ça va un peu dans ce sens-là, mais j'avais passé 2 semaines un peu d'observation à Rennes, justement, dans au Triangle, enfin, tu dois connaître, qui est donc pareil une MJC en quartier plutôt populaire. et où c'était très flagrant, en fait, la division entre, selon le type d'activité, par exemple, les cours de français, on n'est que des étrangers, les cours d'anglais, on est plutôt des anciens, enfin, et ces populations se croisaient pas, sauf aux cours de couture. C'est-à-dire qu'au, enfin, mis à part qu'il n'y avait pas d'hommes, mais aux cours de couture, il y avait à la fois des populations immigrées qui venaient d'arriver en France ou, et des Françaises, enfin, j'aime pas trop ces catégorisations-là, mais c'était le seul, la seule activité où ces populations-là, justement, se rencontraient, ce qui pose effectivement le problème après de la programmation et peut-être après d'étendre à d'autres cadres, enfin, comment faire pour que ce cours de culture peut-être débouche sur un projet commun plus large ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'était extrêmement flagrant.
Mais on est dans un système d'hyper spécialisation, hein. Je veux dire, non seulement ce qui est culturel n'est pas social, ce qui est social n'est pas éducatif. Enfin, nous, on intervient par exemple avec des animateurs sur la question de l'école. Bah, jamais, jamais, ils ne s'autorisent à aller sur le terrain de l'éducation nationale. C'est chasse gardée, c'est pas eux. Enfin, et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on invente les façons de transgresser ces divisions-là. Par exemple, rien n'interdit, et ça se fait heureusement, de sortir du simple loisir pédagogique ou éducatif. Je veux dire, quand je propose, enfin, quand je pose comme hypothèse que ça serait bien de donner une occasion à des enseignants de parler de leur métier, j'ai l'impression de proposer un truc simple. En fait, c'est faussement simple. Les enseignants sont des gens qui ne parlent jamais de leur méthode d'enseignement entre eux, jamais. D'accord ? Ils ne savent pas comment ils enseignent. Et où ils le savent par le biais des élèves qui leur racontent. Pour moi, refaire de la culture, ça serait mettre en place des choses comme ça. Ça serait prendre la décision de mettre en place des trucs de cet ordre-là. Mais vous voyez bien qu'on est... On est loin de la diffusion artistique ou de je sais pas quoi. On est là sur... Et quelqu'un disait, est-ce que la culture, c'est le reflet de la réalité sociale ? Mais pour moi, la réalité sociale, c'est des enseignants qui deviennent barjots, c'est des élèves qui sont en échec scolaire et qui n'en sortiront jamais, qui comprennent pas pourquoi. C'est, enfin, vous voyez, c'est la démarche qualité, c'est les gens qui sautent par la fenêtre à France Télécom. Enfin, je veux dire, bon. Donc moi, je plaide plutôt pour qu'on remette ça en travail sous des formes qui restent à inventer. Alors ça ne devrait pas, c'est le vieux débat depuis 15 ans dans les MJC, ça ne devrait pas disqualifier par ailleurs tout le travail qui est fait de loisirs éducatifs, des cours, de tout un tas de choses, si tu veux, qui est un truc absolument utile. Enfin, je veux dire, voilà, moi je fais du parapente, il a bien fallu que j'aille dans un stage pour qu'on m'apprenne. Enfin, tu vois, je me suis pas balancé avec un chiffon derrière moi pour voir comment ça faisait. Je parle juste d'autre chose, quoi. Mais le problème, c'est d'arriver à aller sur ce terrain-là, qui n'est pas évident, parce qu'on est dans des cases, quoi. Je comprends la réaction de d'Annie, si tu veux. Elle se casse le cul à essayer de faire des trucs, elle s'épuise depuis des années, et puis elle a l'impression que dans le débat, on dit « Ouais, mais en fait, bon... » Donc, elle dit « Non, mais attendez... » mais en fait, elle n'est pas en accusation, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si demain, la Maison Populaire, je pense, hein, si demain, la Maison Populaire voulait créer un groupe de parole avec des enseignants, ça poserait plein de problèmes politiques, ça ferait chier plein de gens, il y aurait des oppositions dans tous les coins, enfin, tu vois. Et je pense que c'est vers ça qu'il faudrait qu'on arrive à aller. Bon, voilà, c'est tout.
Franck ? Ouais. Non, je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Ça marche, ça ? Ça fait un drôle d'écho, non ? C'est vrai que, on résiste à tout, on est résistant à tout, mais on finit par être partisan de rien. Il faut quand même réaffirmer un peu nos choix d'inscription dans les luttes. Il faudrait un peu parler de la culture des luttes et des choix qu'on fait. Je ne pense pas que le parapente soit la forme ultime de lutte contre le capitalisme. À un moment donné, il faut s'inscrire dans tous les sujets culturels et les divertissements. Mais à un moment donné, il y a quand même des formes organisées de la vie en société. Et le problème qui peut se poser, c'est quelle forme donner aux luttes politiques aujourd'hui ? Et c'est effectivement le travail de ces formes qui va être le travail de la culture. C'est le travail à donner aux formes d'organisation de la lutte politique. Alors, il y a les formes, effectivement, d'organisation, qui sont les syndicats, les partis. On peut s'interroger sur leur pertinence actuelle. Et bien, il y a aussi les formes d'expression, qui sont les outils. Et là, je crois que le milieu social, il est aussi ringard que ce que tu peux dénoncer dans les grandes institutions. Effectivement, on peut penser que les gens qui sont opprimés au plan des cultures ne vont pas révolutionner le travail de l'écriture, de l'image, etc., pour participer au combat. Donc, je pense aussi une chose, c'est que, très simplement, on est dans une maison populaire qui est une maison avec un gros budget municipal, entre autres. On s'inscrit dans la ville. C'est des sujets qu'on partage. On peut aussi, nous, se réinscrire comme militants, puisqu'il y a des mots qu'on n'emploie plus, qui font ringard. Il n'y a pas que la lutte anticapitaliste, il y a aussi le mot de l'engagement du militant. Alors peut-être que là d'où on est, on peut ouvrir sa gueule publiquement. Pas seulement dans des débats culturels ou nommés comme tels, mais aussi au sein de la ville, des associations de locataires, pour ceux qui sont dans le logement ou dans le logement social. Je parle bien sûr sur les lieux de travail et encore des syndicats, je pense, même s'ils ne sont pas sous les formes qui nous conviennent le mieux. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'inscrire dans les luttes, pour penser les transformer plutôt qu'essayer de les éviter. Et puis je pense que dans la ville, il y a énormément d'équipements qui sont les services d'une municipalité. Au lieu de dire, comme c'est souvent le cas, qu'ils sont en gare et qu'ils ne font pas leur boulot, peut-être qu'il faut aller combattre. Et peut-être qu'il faut aller faire chier les élus de quartier pour qu'ils fassent vraiment leur boulot par rapport au territoire. Donc je veux dire par là que notre pensée critique, il faut la mettre en pratique. Parce que tu parlais de l'art. L'art, effectivement, dans son idéologie, dans son idée, tu as raison de dénoncer, mais c'est une pratique. À partir du moment où on rentre dans cette pratique, là, il va falloir voir comment on se met ensemble en mouvement. Et donc, je pense que tout ça m'interpelle dans tout ce que tu dis. Tu sais bien que je suis complètement d'accord avec la plupart. C'est peut-être sur la mise en pratique que là, je pense qu'on peut avoir des désaccords. Je pense qu'il existe actuellement des formes organisées qui ne sont pas obsolètes. Elles sont simplement soit abandonnées, soit ringardisées, parce qu'on oublie aussi que la culture, c'est aussi la culture du capitalisme à travers les formes marchandes du divertissement qui, elles, effectivement, travaillent la répétition, l'immédiateté, nous bouffe le temps, tout ce que tu as pu dénoncer. Et effectivement, cette forme de pression, on l'a subie aussi, nous, et elle nous fait quelquefois renoncer avec bon sens, j'aime pas trop cette expression, mais à nous inscrire dans les formes de lutte du quotidien qui sont celles de la démocratie pour laquelle, quand même, on se bat encore.
Moi, je ne suis pas pour opposer. Dans la maison pop, on a des activités de pratique amateur, on dirait. Et il n'y a pas de parapente, mais on pourrait. Et moi, je n'oppose pas les choses. Hein, je ne rentre pas dans le débat l'anticapitalisme, bien que dans notre groupe, ça faisait partie un peu de notre consensus. Mais je pense que les pratiques amateurs, et même de la couture, pourquoi pas, on pourrait faire de la création de confection de vêtements, je trouve ça très intéressant. Moi, je fais du piano. On peut dire que ce n'est pas révolutionnaire de faire du piano, mais néanmoins, on a la possibilité, dans des structures comme celle-ci, de faire des activités qui sont quand même sorties du secteur marchand. Et quand même, quand on subit l'exploitation, soit dans une boîte privée, soit dans les administrations, comme dans celle où je travaille, c'est la loft, c'est les démarches qualité et qu'on nous use la moelle, qu'on n'a plus un espace de... on n'est plus payé pour réfléchir quand on est des cadres, etc. Avoir des lieux où on a des activités où on s'épanouit, même pendant une heure et demie à faire de la musique ou du yoga ou d'autres choses, je trouve que c'est des armes pour devenir citoyen. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais c'est des espaces. Et donc, moi, je ne suis pas juste sur cette question-là pour opposer les choses. Par contre, je trouve très intéressant l'idée d'effectivement des paroles de chacun sur son travail, parce que ça, je pense que c'est une partie de restitution de la vie et de l'humanité. Et pour moi, ça fait partie aussi de la création culturelle que je n'oppose pas au reste et à la diffusion de tout ce que les uns et les autres on aime, qui malheureusement est dans le secteur marchand.
Oui, mais en même temps, vous venez bien de pointer que le système s'est organisé avec d'un côté le travail, avec tout ce qu'il peut avoir de dur, oui. Et puis à côté des temps d'épanouissement pour se réparer, pour se distraire, ou pour etc. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qui est mis en... Enfin, si j'ai bien compris ce que la Maison Pop met en avant cette année sur culture et travail, oui. C'est Est-ce qu'on ne peut pas réinterroger le travail ?
Ah mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas que ces moments, qui sont peut-être que des moments de réparation, sont des moments
oui,
où on se reprend soi-même en tant que citoyen, un petit peu. Et c'est des moments où d'affirmation, à l'inverse d'une non-parole qui est donnée le plus souvent dans les boîtes où on travaille.
C'est
des armes, et c'est des armes pour aussi s'émanciper. C'est des outils. Enfin, moi, je le vis comme ça, et je le vis parce que je pratique ici avec des tas de gens divers, certes pas suffisamment, et je suis pour qu'on recherche, je fais partie des groupes de travail ici qui sont pour rechercher comment on peut aller plus loin. Mais après, il y a des barrages ou des diversités culturelles, comme l'a très bien expliqué le monsieur là où le cinéma fait de l'afghan et pas sous-titré. Et ça se travaille aussi. Je ne sais pas s'il faut faire des mots de projet, mais ça, il n'y a rien de spontané, mais on l'a déjà dit tout à l'heure.
Alors, moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, on est dans un lieu qui, même s'il donne l'impression, je pense, de sortir d'une relation marchande, tout à l'heure, Philippe abordait la question du salariat. Là, on parle de est-ce qu'on peut remettre finalement et rediscuter du travail. Tout ça, c'est lié. Enfin, ce qui est important, c'est finalement les sources de financement et ce qu'on va cadrer ou pas. Je pense pas qu'il y a rarement des lieux qui sont financés par un gouvernement, que ce soit en France ou dans d'autres pays, qui auront envie de dire aux habitants, ce lieu, il va être à vous. Donc vous pouvez venir non seulement pour y faire vos activités, mais vous allez vraiment pouvoir le posséder finalement. Il sera à vous, et si vous avez envie de le changer, de le détruire, d'en reconstruire un autre, de le déplacer dans la ville, j'en sais rien. C'est quelque chose qui est absolument inenvisageable, je pense actuellement. Ça va beaucoup trop loin dans ce qu'on pourrait même pour l'instant espérer. Mais c'est imaginable, ces choses-là. Enfin, qu'est-ce que font les gens quand ils s'approprient un squat ? Enfin, c'est pas se l'approprier finalement, ils l'occupent, d'accord ? Et dedans, ils vont faire des tas d'activités culturelles aussi. Ils vont former des gens à faire du cirque, à faire de la peinture, à faire du graffiti, de la musique, ce que vous voulez. Ces gens ne sont pas forcément rémunérés pour toutes les activités qu'ils font. Il y en a, mais ils ne sont pas forcément rémunérés. Donc, tout ça, c'est imbriqué, quoi. On ne peut pas juste... moi, je pense que le danger de certaines visions de la culture, c'est d'une espèce de soupape de décompression. Donc, en fait, c'est vrai, on se fait chier tout le temps au boulot. Et puis, la culture, à côté, même si on a l'illusion que ça en sort du système marchand, ça serait juste un moment de... Pouf, là au moins je me fais pas chier. Mais demain je me refais chier. Donc c'est juste un moment où on aurait une décompression. J'ai pas dit que c'est ce que vous aviez dit. Je dis ce que je suis en train de penser et ce à quoi m'a fait penser ce que vous avez dit. J'aimerais être clair sur mon intervention. C'est pas pour. Je suis pas en train de dire ce que vous avez dit. Enfin voilà quoi. C'est ce que j'avais envie de dire.
Oui, enfin, par rapport au travail, moi je travaille pour un comité d'entreprise. Peut-être que la finalité, c'est peut-être pas de travailler. Déjà, on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin que de se poser la question du travail. Ce qui peut être lié à la question du salariat, je suis bien d'accord, mais enfin, je veux pas non plus qu'on travaille sur limite. Le nombre de squats que je connais, qui sont uniquement des lieux privés pour quelques-uns, qui ont eu le courage de le faire et d'occuper, pas de problème, mais qui sont pas si ouverts que ça sur plein de gens, faut pas non plus faire des mythes. J'en connais un paquet, j'ai 53 balais. Il y en a qui ont fait autre chose, j'ai pas dit qu'ils faisaient tous ça, mais enfin on va prendre les squats parisiens, machin et compagnie. Il y en a beaucoup. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe quand on interroge, c'est pas reproduire sous une forme, au même titre que alors le zone populaire, je connais pas du tout, c'est la première fois que je viens, donc j'ai pas d'avis, mais sur ce que peut faire le CE, qui est en gros faire à moins cher ce qui peut être ailleurs dans un secteur marchand. Mais pas différemment, faire autre chose à moins cher. Donc si on veut aller plus loin. Il faut voir à prendre un peu de temps, ça c'est sûr, je suis d'accord. Je pense qu'il faut quand même se donner quelques objectifs et pas forcément se dire « ça super, je pars avec 1000 personnes et demain je reviens ». Et puis je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin et oser aller plus loin. Oser se dire que le consensus, c'est peut-être pas la démocratie. Que ce qu'on peut avoir en commun pour dépasser ce qui se passe, c'est pas la République. Que la Révolution française et les Lumières, c'est une donnée, c'est pas la donnée. En tout cas, c'est pas la donnée mondiale, même si elle est universelle. Que vivre en démocratie, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de ce qui est possible. Que le fait d'avoir de l'argent pour vivre, ça peut ne pas être du salariat, sauf à tout reconstruire le système, c'est aussi Lévi-Strauss, c'est aussi un mode d'échange. Le mode d'échange, fric, pas fric, c'est la question du mode d'échange qui se pose. Enfin, il faut peut-être aller plus loin et puis aussi se poser la question, je pense, de la mémoire et des repères qu'on se construit. C'est difficile, Franck le dit, et il a raison, et on peut être plusieurs à croiser ce problème, d'interroger ce qu'on entend par culture. Si on parle en France d'interroger ce qu'est la République, la nation républicaine, je parle même pas de l'identité nationale, tous les discours de la droite, de l'extrême droite à l'extrême gauche, à un moment ou à un autre, se réclament démocrate et républicain en France. On ne peut pas être autre chose que démocrate et républicain. Donc, et moi je dis que ça, c'est un carcan. La République, pour moi, ça a été un des plus grands outils de maintien du capitalisme en France. Donc oui, il faut qu'on discute tous. C'est mon avis, hein, je dis pas que j'ai raison. Voilà, mais je pense, on peut en discuter si vous voulez. On peut en passer la nuit aussi. Mais bon, moi je bosse. Donc, mais je pense qu'il faut effectivement qu'on ose aller, y compris au-delà de ce qu'on pourrait se permettre. Et pour ça, il faut aussi qu'on se pose la question de la mémoire et de la transmission de la mémoire. Tu parlais des années 70. Il y a eu plein de choses avant les années 70, y compris avant la Révolution française, y compris qu'il y a eu plein de choses sur la planète en dehors de la France et de l'Europe et du monde occidental. Donc ça veut dire qu'il faut un moment que tout ça, ça sert. Je prendrai un exemple simple. France Télécom, 100 000 salariés aujourd'hui, 60 000 fonctionnaires encore dans une entreprise privée, 30 000 à peu près, enfin un tiers de salariés de contrats privés. Beaucoup de jeunes dans ces nouveaux salariés pour qui c'est inenvisageable de faire une grève de 3 semaines parce que ils n'ont même pas la connaissance que des gens un jour ont fait une grève de 3 semaines. Alors ça peut être un truc con et comme la lune. On va faire le tour là. Qui pense que c'est faisable au jour d'aujourd'hui de faire une grève de 3 semaines? Donc on parle même pas des gens de France Télécom. Bah 2, 3, 4. Bon après c'est facile. Celui qui en a qui lève la main, tout le monde va le faire. Donc je vous invite demain et on se retrouve pour la faire. Combien demain? Voilà. Pourquoi il faut être salarié ou faire la grève? Il y a plein de formes de grève. Il y a plein de formes. On peut refuser de payer, on peut refuser plein de choses. Donc voilà, je pense que moi c'est un peu en vrac ce que je dis là, pas très construit. Je suis pas forcément le plus érudit, mais en tout cas je pense qu'un des grands handicaps qu'on a, et quel que soit l'endroit, aussi bien quand je m'interroge sur le boulot que je fais, là où je suis avec mes élus, alors mes élus, moi, c'est des syndicalistes, mais voilà, c'est qu'on est des handicapés de l'utopie. Mais moi, je suis pessimiste aussi, hein. Alors moi je suis dans un syndicat où il y a 80 000 personnes, donc je suis pas tout. Voilà, je te réponds. Je suis pas tout seul trois dans un squat. La question elle n'est pas là. Quand je dis handicapé, c'est que en gros au deuxième tour des présidentielles entre, je parle même pas de Chirac, Le Pen, je parle de Sarkozy, Ségolène Royal, j'ai perdu des amis. C'était impossible de discuter, de pas les voter. C'est ça, je parle.
Mais arrêtons de parler d'expérience personnelle. Essayons de déborder la question. La question que pose Franck, avec ses provocations, avec son pessimisme, etc. Une certaine partie, j'en discuterai à un autre moment, parce que c'est plus compliqué. Mais il y a vraiment une proposition de se reposer la question de la culture, dans la culture comme élément de transformation des luttes, pour citer personne, et qui est le plus important. Après, il faut se saisir. Je suis désolée, dans les petits théâtres municipaux, dans les offices HLM, etc., il y a des lieux, il y a des photos. photocopieurs, il y a des internets. À nous nous emparer, à nous nous organiser, à nous de créer des réseaux de compétences, parce que je ne suis pas d'accord qu'un lieu comme la Maison Populaire serait ouverte à tout le monde sans encadrement, entre guillemets, assez intelligent pour être ouvert. Et quand Annie dit que, par exemple, il y a des salles ouvertes à n'importe quelle proposition de personnes, de groupes et tout, c'est vrai que ça existe, ça n'existe pas qu'ici. Saisissons de ces choses-là. On est toujours en train de refaire les choses. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, on est en train de se tuer nos propres utopies. Je ne dis pas que ça va bien, ça va très mal. Mais si on a toujours ce discours que le militantisme, le politique, c'est chiant et emmerdant et qu'on est que des curés, on ne va jamais s'en sortir. Il faut pratiquer, bouger. Le logement, la santé, on a assez de questions qui nous intéressent intimement, qu'on peut partager avec des gens, avec nos connaissances. Allons sur le terrain, mais allons sur une présence régulière, permanente et de proximité. Et je pense qu'à force de changer sa proximité, on va pouvoir petit à petit changer le monde grâce à des rencontres où on pourra échanger là-dessus. Mais là, le discours qu'il y a tout qui ne va pas et qu'on va se raconter que tout ne va pas, moi, j'ai qu'une envie, c'est de fuir, parce que ça, on le vit au quotidien et c'est trop lourd à vivre. Il y a des lieux, il faut s'en saisir, des pratiques de l'éducation populaire qu'a exprimé Franck dans certains de ses spectacles et tout, dont il faut s'en saisir. Il faut se mettre au boulot, et au boulot avec plaisir et jubilation, parce que c'est pour se faire chier, il ne faut surtout pas commencer.
Dans la tournure que vient de prendre le débat, finalement, je trouve qu'on a perdu, enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Moi, j'ai perdu le sens premier de ce qui s'est passé au début de cette soirée, où tout d'un coup, il s'est passé quelque chose et où on s'est tous retrouvés en situation de vivre quelque chose de différent ensemble. Et à ce moment-là, on n'est pas rentré dans des bagarres de points de vue et d'opinions qui peuvent avoir leur intérêt, mais tenter qu'il y ait un échange, finalement. Bah ouais, mais en même temps, on a vu à quel point c'était difficile de parler, et là, de prendre la parole, sans parce qu'il y a une crainte de se prendre les foudres de celui qui sera pas d'accord. Et là, quand même, c'est un peu quelque chose qui se rejoue, finalement. Mais y compris dans la culture et dans... Enfin, voilà, après, je vais terminer. Dans la culture et dans le rapport à la culture et à l'éducation et à l'éducation populaire, il y a aussi le faire ensemble, tout simplement. Au moins comme point de départ. Et c'est déjà, pour moi, c'est déjà un acte en soi.
Bon, alors je te rassure, Gilles, parce que la grève a effectivement lieu demain. C'est en tout cas la grève des activistes. Il y a quelqu'un qui parlait de donner des formes à nos luttes. Moi, en tout cas, j'entends qu'il y a plusieurs endroits, on parle à plusieurs niveaux, et je suis un petit peu gêné quand on stigmatise trois jeunes dans un squat. Ça me rappelle un ministre qui parle de cinq gus dans une cave, hein, qui sont ceux qui ont contesté Adopi, puis on sait bien que c'était un mouvement bien plus large. Donc il y a effectivement plusieurs endroits dont on parle. Si on cherche à mobiliser des énergies désirantes, ça se passe à plusieurs endroits. Et dans ces gens qui cherchent, mais qui n'ont pas des solutions toutes faites, mais qui cherchent des formes, est-ce qu'elles sont culturelles, est-ce qu'elles sont encore à nourrir, moi, c'est ce que je crois. C'est tous les groupes d'activistes, c'est la Brigade des Clowns, c'est un certain nombre de collectifs, et qui décident de faire 3 jours de colloque. Donc ça commence demain. Il y en a qui le font, 3 jours de colloque d'affilée. Alors c'est des gens qui sont beaucoup dans l'action, qui, pour une fois, et je crois que c'est un peu la première, se mettent tous ensemble. Ça va être dans un lieu relativement autogéré, un squat qui est dans le 11e arrondissement, là, la petite roquette que certains connaissent, parce que c'est un squat qui fait beaucoup cette passerelle avec des artistes, des qu'on appelle des punks à chiens, et puis Médecins du Monde, et puis c'est un vrai lieu de diversité. Et ils se posent une série de questions à partir d'un livre qu'ils ont quand même édité. Donc il y a une première démarche de regard sur ce qu'ils font, qui s'appelle Un nouvel art de militer. Alors ils posent la question de l'art, peut-être pas de la culture, je sais pas, peut-être la question des formes. Moi j'ai lu juste leur annonce, et ils ont listé un nombre de questions. Je pense qu'ils en ont bien pour 3 jours. Mais voilà, c'est un des endroits.
Et c'est un des endroits parmi d'autres. Et c'est surtout pas à opposer à d'autres lieux où la culture prend différentes formes et cherche un rapport, une façon de militer, quoi, au réel. Donc c'est un nouvel art de militer pour ceux qui veulent voir ce programme parce qu'il est assez riche. Et il y a un bouquin qui va avec.
Hein ? Quand est-ce qu'on... Non, c'est l'exercice. Tu as raison. En fait, on retourne dans la forme qui va devenir pas agréable. Et en plus, c'est un exercice vachement frustrant parce que du coup, on se culpabilise, on se comprend mal. Enfin bref. Donc, si, moi, je culpabilise. Ouais. Non, mais bon, je pense que on va pas radoter non plus toute la soirée. Voilà, moi j'ai posé 2-3 trucs. C'est très imparfait. On peut pas en parler rapidement, à mon avis. Il faut se méfier beaucoup des malentendus. Mais ça, c'est l'exercice de la soirée débat échange questions réponses. Ça oblige à prendre des raccourcis un peu violents. Du coup, bon. Tu vois, enfin, puis on arrive à un moment où on pose des questions trop grosses, quoi, tu vois. Est-ce que le syndicalisme est efficace aujourd'hui? Ouais, enfin, je sais pas. Donc, je sais pas, non. Par contre, c'est vrai que ce qui était intéressant dans le fait d'avoir commencé de cette façon-là, c'est qu'au moins, on voit qu'il y a une possibilité de travailler comme ça. Peut-être j'aurais pas dû, d'ailleurs on aurait dû rester si tu veux, sur cette modalité probablement, mais en tout cas ça montre que il se passe des trucs différents, quoi, tu vois. Et donc soyons attentifs aux formes, ouais. Est-ce que la puissance invitante veut conclure?
Traditionnel. Moi, je la parole vous appartient. Bon, moi, il y a quelque chose que j'ai retenu quand même, c'était de dire, moi, je veux bien jouer le challenge, hein, c'est-à-dire que tu as proposé quelque chose à un moment donné en disant, bah voilà, il y a du monde, etc. Vous voyez, ça marche, on discute à trois, ça produit quelque chose, mais on va partir, après on va oublier, on va se perdre. De donner des rendez-vous mensuels, moi, je suis prête à jouer le jeu, puisque bon, je dis, bon, non, je sais pas quel jour, etc. S'il y a un groupe qui veut continuer à discuter sur cette question de la culture et du travail, qu'est-ce que c'est que le travail de la culture et comment on sort de formes de domination et que voilà, bon, réfléchir là-dessus tout en sachant que bon, c'est un groupe de réflexion pour moi, que je ne peux pas moi dire je vous invite à créer un parti politique au sein de la maison populaire, je veux dire que c'est pas possible, quoi, je veux dire c'est juste pas possible, quoi. Voilà. Alors là, si je vais me faire harakiri, c'est enregistré, je peux pas le faire. Donc ce que je peux faire, c'est effectivement, il y a des questions de fond qui se posent, qui sont économiques, politiques, sociales, les grands thèmes dans tous ces champs. Effectivement, il y a de la culture parce qu'il y a des pratiques, parce qu'il y a des choses qui ont été actées à travers l'histoire. Et ça, on a un héritage, on peut le critiquer, on peut faire des sauts de puce, retourner 3 siècles en arrière, peut-être qu'il y avait des choses intéressantes qui étaient développées, que tout d'un coup on a abandonné, on ne sait pas pourquoi. C'est propre à tout ce qui est de l'ordre de la pensée, hein. Des choses qui sont abandonnées en cours de route parce qu'elles dérangent, elles sont transformées. Bon... oui, je peux ouvrir un espace de réflexion. Ça sera, c'est pas péjoratif, mais c'est, je veux dire que bon, c'est un énième atelier de la maison populaire où effectivement on ouvre un espace où les gens réfléchissent ensemble, se donnent les moyens de réfléchir. Alors, bon, j'avais envie de vous dire ça parce que j'ai entendu et j'ai renvoyé la balle au bon. Il y a des choses qui se passent par ailleurs avec Travail et Culture, la Maison des Métallos qui aussi fonctionne sous cette forme de travail, de réunion, parce que je suis allée deux fois à leur rencontre avant les vacances et la rentrée. Qui fonctionne aussi cette forme de 3 ou 4 personnes qui discutent et qui rapportent, etc., qui dynamisent la discussion. Donc moi, ce qui m'intéresse effectivement, s'il y a un groupe comme ça ici qui réfléchit, puisqu'on traite des mêmes questions que, qui sont traitées par chez eux, comment à un moment donné ça fait convergence, que ces choses-là quoi, qui se font à travers différentes associations, s'il y a une force réfléchissante ici, comment à un moment donné ça fait force, vous avez donné d'autres lieux possibles, comment à un moment donné il peut y avoir rencontre entre des groupes qui réfléchissent, qui sont d'univers différents, je suppose. C'est ça qui fait sa richesse. Bon, alors, pratiquement, je vais jouer le truc à projet. C'est qu'à la sortie, on va mettre un papier, vous laissez vos coordonnées, et puis on voit à quel moment Franck, s'il revient, si c'est pas Franck, il veut pas, on voit ceux qui sont d'accord pour tenter l'expérience. Moi, je. Voilà, il y a une proposition, j'apprends bon, et puis. Et puis, bah, écoutez, sinon, je vous invite à voir le spectacle de Franck. Sur cette scène le 22 janvier prochain. Voilà, vous réservez parce que c'est voilà, parce que là, comme vous voyez, la salle elle est pas très grande, donc c'est sur réservation parce qu'on sait que voilà, s'il y a des gens qui téléphonent, on dit il y a plus de place, on va rappeler Franck une autre fois, il va rejouer peut-être. Bon, parce que c'est toujours embêtant de dire aux gens venez, il y a de la place et que c'est complet. Bah, on peut faire comme ça si vous le souhaitez. Moi, je sais pas. Voilà. Et puis, non, on continue à avoir donc. Il va y avoir d'autres séminaires, d'autres rencontres avec d'autres personnes. Bon, bah, c'est une forme traditionnelle. Donc, la prochaine rencontre, c'est le 4 décembre avec Nicolas Frise, qui est donc compositeur, qui a une forte expérience de terrain, de travailler avec des groupes de personnes à qui, bon, effectivement. Il est dans le processus, comme on a dit, les choses se passent dans le processus, mais en même temps, il y a un résultat qui est rendu dans l'espace public en général avec Nicolas. Il sera accompagné aussi d'Yves Clos, qui est donc chercheur au CNRS et qui travaille sur ces questions de la souffrance au travail. Donc, ils se connaissent très bien, ils vont se compléter de par leur intervention. Merci en tous les cas. Voilà, à bientôt. I hope.